Le podcast de l'Institut de l'économie regroupe des points de vue d'experts qui vont au-delà des technologies de la microélectronique, du logiciel et d'Internet pour prendre en compte et analyser les effets de l'informatisation dans l'économie. Les épisodes du podcast « Les clés de l'économie » sont disponibles sur les chaînes majeures de balado-diffusion. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jean-Philippe.
Vous avez comme point commun d'avoir fait un cursus ENSAE, la grande école d'ingénieurs de référence en économie et sociologie quantitative, statistique et machine learning, finance et actuariat, avec Michel Vol comme professeur, lui-même économiste. Jean-Marc, tu as été inspecteur général honoraire à l'INSEE. Jérôme, tu as travaillé à la COFAS de 1989 à 2010, dont tu as été le CIO. Tu as écrit un roman, 555 Jeudis Rouges, en 2011, qui est une description réaliste de la prochaine crise financière et du monde de la finance de marché, finance de marché qui coûte bien trop cher à l'économie réelle et à toute la société. Avec une équipe d'associés, tu as créé MyCercle, on prononce à la française, une entreprise spécialisée data rooms numériques et espaces de partage sécurisés. Enfin, tu es co-créateur de RRR, non pas comme RRR, le film d'Alain Chabat, ni comme R, langage de programmation, qui est un logiciel libre destiné aux statistiques et à la science des données, mais R comme Réconcilions-nous, un lobby de l'intérêt collectif. Le 30 juin dernier, Gilles Babinet, monsieur Numérique France à la Commission européenne et vice-président du Conseil national du numérique, dans sa chronique du journal Les Échos, titrait « Pour décarboner, il faut commencer par informer ». Et pour bien informer sur ce sujet, encore faut-il comprendre comment pouvoir informer et qui informer. Jérôme et Jean-Marc, vous avez entrepris une réflexion et des propositions pour nous indiquer la quantité de carbone produite pour la fabrication d'un produit ou pour les prestations de services. Les bases de ce concept existent depuis quelques années. À titre d'exemple, la SNCF indique sur nos billets notre empreinte carbone pour les trajets de TGV. Mais votre modèle concerne toutes les entreprises intervenantes dans la fabrication d'un produit ou d'un service, du début à la fin de sa fabrication. Si on ne pense qu'à la voiture et au nombre de pièces qui la composent, ce défi est compliqué, voire inaccessible.
Oui, ça paraît très compliqué. Merci d'avoir rappelé qu'à l'origine, il y a R, R avec un grand R avec un point d'exclamation, qui veut dire, comme tu l'indiquais, réconcilions-nous, et qui est un lobby de l'intérêt collectif. Donc R travaille depuis maintenant un peu plus d'un an pour essayer de trouver des propositions qui réconcilient, c'est-à-dire en gros qui arrivent à sortir par le haut de grands débats dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Et donc notre première action, c'est carbone sur facture, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Et carbone sur facture cherche à mobiliser tout le monde autour de la trajectoire carbone. Et pour essayer de présenter qu'est-ce que c'est que carbone sur facture, il est peut-être commode de fonctionner en deux étapes, comme nous-mêmes on travaille en deux étapes. C'est-à-dire, carbone sur facture, c'est deux choses. C'est une innovation et c'est une expérience, un POC disent les start-up, une expérience pour déployer cette innovation en vraie grandeur. Et donc peut-être qu'on peut commencer à décrire déjà l'innovation que constitue carbone sur facture.
Est-ce que vous avez déjà des exemples ou est-ce que vous êtes encore à la réflexion ou à la conception de ce modèle ?
Mais le modèle, il est conçu. En gros, on a lancé notre site le 17 octobre qui décrit l'innovation. Et depuis le 17 octobre, on a un certain nombre de rendez-vous. On en avait eu un peu avant aussi pour valider le concept et passer à la phase d'expérimentation. Donc, alors l'innovation elle-même. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité de mesure. On est totalement d'accord avec Gilles Babinet là-dessus. En gros, on ne peut pas mener un projet s'il n'y a pas de mesure. On ne peut pas le suivre, on ne peut pas s'impliquer dedans s'il n'y a pas de mesure. Alors la première réaction, c'est de se dire, mais la mesure, elle existe déjà. En gros, le GIEC, il nous a dit, Il y a une manière de mesurer tous les problèmes du climat, c'est l'effet de serre, c'est-à-dire les carbone, équivalent CO2, tous les gaz à effet de serre que relâche l'activité humaine dans l'atmosphère. Donc en théorie, on sait comment mesurer le problème, et donc comment s'attaquer au problème. La réalité, en fait, c'est qu'on le sait au niveau le plus global. Mais chacun d'entre nous, dans sa vie de consommateur, quand il fait un achat, il ne sait absolument pas. Alors tu as cité l'exemple de la SNCF, mais c'est une poussière dans l'ensemble des achats qu'on fait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pareil pour les entreprises. Les entreprises ne savent pas, quand elles font leurs achats, quand elles conduisent des projets, elles ne savent pas mesurer précisément les carbones. Alors nous avons une mesure, nous avons aussi une manière de calculer cette mesure. Beaucoup de grandes entreprises ont commencé à faire de très grands travaux pour mesurer leur carbone, mais à la fin des fins, ça n'est qu'une petite partie des acteurs qui ont une idée floue des carbones. Et donc nous, notre innovation, elle vise à ce que chaque acteur économique, politique, social, quand il prend une décision, il sache combien il y a de carbone lié à sa décision.
Petite précision, chaque Français produit 10 tonnes d'équivalent carbone.
Alors, en moyenne.
En moyenne. Ça ne nous dit pas grand-chose non plus, parce que personne n'imagine ce que c'est. Donc il y a un certain nombre de dessins, d'illustrations qui permettent de montrer combien pèse une rame de papier A4 en équivalent carbone, et ainsi de suite, les trajets SNCF. Mais Jean-Marc, tu voulais donner une précision ?
Non, je voulais dire qu'on n'est pas les premiers, évidemment, à avoir cette idée, et que c'était en réalité une des mesures qui avait été préconisées par le...
Comment ça s'appelle déjà ? La Convention citoyenne et le Grenelle de l'environnement.
Par le Grenelle de l'environnement. Oui. Donc, ça avait été une des premières mesures qui avait été préconisée par le Grenelle de l'environnement, donc en 2008, et ensuite par la Convention citoyenne de l'année dernière. Et dans les deux cas, on s'aperçoit que, alors qu'il y avait un très large consensus de tous les acteurs économiques sur le fait que ça serait bien si on pouvait le faire, eh bien, on se rend compte 10 ans plus tard que rien n'a été fait. Et rien n'a été fait parce qu'en fait, c'est très compliqué. Et notre innovation, notre proposition, consiste à montrer comment, par une collaboration des acteurs, on peut arriver à un résultat tout à fait extraordinaire, à un coût qui nous semble parfaitement raisonnable.
Alors, dans votre projet, vous parlez beaucoup du rôle des comptables. En quoi les comptables vont-ils être un élément important ? Je ne sais pas si ça sera la clé de voûte, mais en tous les cas, un élément important dans tout le processus que vous mettez au point.
Si vous essayez de regarder quels sont les quatre défis à résoudre pour avoir, ce qui est notre objectif, les carbones sur les factures, c'est-à-dire que chaque produit ou chaque service soit accompagné sur son étiquette ou sa facture par son poids en carbone. Vous avez en fait quatre défis, et l'un de ces défis est résolu par les comptables. Le premier défi, c'est un problème intuitif qui est de se dire, finalement, ce que nous disent les scientifiques, c'est que tous les carbones qu'on échange entre nous, à l'origine, si on revient à l'origine, c'est ce qu'on appelle un carbone primaire. C'est-à-dire un carbone qui, par exemple, va être du pétrole qu'on sort du sol, du bois qu'on tire de la terre, des vaches qui émettent du méthane. Mais à la base, il y a des carbones primaires. Et c'est ces carbones primaires qu'on va échanger entre nous dans des économies qui sont devenues fabuleusement complexes et qui font que le problème est compliqué. Mais le premier défi, c'est de bien se concentrer en disant quels sont les carbones primaires et de les mesurer au moment où ils rentrent dans le système. Et ça, la science a fait beaucoup de progrès là-dessus, on peut y arriver. Le deuxième défi, imaginons que les producteurs de carbone primaire aient fait leurs calculs et les mis sur les factures. Après, chaque client dans la chaîne de production puis de distribution va trouver ses carbones. Qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir les ventiler, ces carbones des fournisseurs, entre ses factures clients, s'il veut repasser l'information derrière. C'est un problème qui, pour la plupart des gens, paraît très compliqué. Mais si vous en parlez à un comptable, il va immédiatement vous dire « Ah ben oui, mais c'est ce que je fais toute la journée. J'ai des coûts qui arrivent, et puis j'ai des prix qui sortent. J'ai des factures entrantes et j'ai des factures sortantes. Et tout mon boulot de comptable, une partie de mon boulot de comptable, c'est de faire que, d'abord, on vérifie qu'il y a autant de carbone qui sortent ou d'euros qui sortent que de carbone qui rentre ou d'euros qui rentrent. Et deuxième élément, que les euros sont bien dispatchés, donc bien ventilés sur les bons produits. Donc la confirmation qu'on a eue ces dernières semaines, c'est que les comptables nous disent « mais vous avez tout à fait raison ». En fait, c'est exactement ce qu'on sait faire. Donc si on nous confie ce mandat, nous, on sait mettre les carbones sur les factures. Alors après, vous avez un troisième défi qui est de dire « oui, mais ça fait beaucoup d'informations qui circulent. Je sais que tu t'intéresses beaucoup au numérique et à l'information ». C'est un domaine où, heureusement, on fait des progrès très rapides. Et surtout, un progrès que tout le monde n'a pas en tête, mais que beaucoup d'entreprises commencent à découvrir, qui est celui de la facture électronique. La facture électronique, c'est un enregistrement, finalement, qui va permettre d'échanger de manière fluide l'information des factures tout au long de la chaîne de production. Et donc un plan européen et donc français, mais la France est plutôt en avance, se met en place pour que demain, après-demain, toutes les entreprises puissent échanger de l'information par les factures. Il suffit donc de rajouter l'empreinte carbone parmi les, à terme, 100 ou 120 enregistrements qu'il y aura sur la facture électronique potentielle pour qu'on ait un moyen très simple de faire circuler l'information. Carbone primaire, comptable... circulation par la facture électronique, le dernier débat, le dernier défi quand on en discute, c'est de dire « bon, attendez, on ne va pas être comme d'habitude en France à faire le bien tout seul avec les autres qui ne le font pas. Il faut se protéger soit d'un manque d'information, c'est-à-dire un produit qui arrive du fond de l'horizon de Chine ou de Corée dont on ne sait pas combien il y a de carbone dedans. Deuxième élément, de gens qui font de la concurrence climatique déloyale, c'est-à-dire qui mettent beaucoup de mauvais carbone dans un produit qui apparaîtra moins cher. » Donc le quatrième défi, c'est en effet de construire ce qu'on appelle un barème douanier carbone qui fasse qu'à l'entrée en Europe, si possible, en France, si on ne convainc pas tout de suite nos partenaires européens, on sache quand un produit se présente à la frontière, ou bien il a des carbones qui ont été agréés suivant le processus qu'on décrit, ou bien, eh bien on applique le barème carbone douanier, qui est un barème prudent, qui encourage donc à faire des études et qui permet d'avoir les carbones sur les factures, même pour les produits importés.
Dans un précédent de nos podcasts, avec Pascal Ordonneau, on a évoqué le fait qu'il y avait trois plaques tectoniques sur la planète. La plaque tectonique des Américains avec les GAFAM, la plaque tectonique de la Chine, alors non pas que j'oublie l'Inde, mais c'est principalement la Chine, qui est très innovante sur un certain nombre de sujets, je ne vais pas en faire la liste présentement, et la plaque européenne, qui est grosso modo le gros marché de consommateurs, qui intéresse les deux premiers. Et cette plaque européenne, elle a une particularité, c'est sa législation. Est-ce que ça pourrait être une sorte de protectionnisme pour le marché européen, ou est-ce qu'on pourrait être plutôt leader dans ce domaine, comme on l'a été avec le RGPD, pour ne citer que cet exemple ?
Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Le premier, d'abord, c'est de dire qu'en effet, l'Europe, dans le monde que tu décris, les trois plaques, l'Europe peut tout à fait avoir un rôle de précurseur dans ce domaine, et elle l'a dans beaucoup d'aspects, dans ce domaine de la trajectoire bas carbone. Et on va revenir, c'est le deuxième bloc qu'on souhaitait présenter, sur la manière de déployer l'innovation une fois qu'on l'a décrite. Le deuxième élément, c'est de dire que nous, notre approche à ce stade, on est des citoyens, on est des gens d'entreprise, on est des gens de la finance, on n'est pas là pour défendre des réglementations. En gros, on dit il pourra y avoir des réglementations si on démontre que c'est utile. Et nous pensons qu'il est utile pour tout le monde d'avoir des chiffres carbone justes. Et que, en gros, si derrière, il y a besoin de transformer ça en réglementation, on pourra le transformer en réglementation. Mais nous avons la conviction que des pays qui connaissent leur risque carbone, et pas au niveau du président de la République seulement, au niveau de tous les acteurs sociaux et économiques, est un pays infiniment plus fort pour les 30 ans qui viennent qu'un pays qui a la stratégie de l'autruche. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, les Chinois et les Américains ne sont pas plus avancés que nous dans la connaissance du carbone, ils sont plutôt moins avancés, et que donc nous avons parfaitement la possibilité de prendre un cran d'avance sur ce qui va être le grand défi des 30 ans qui viennent, c'est-à-dire la transformation vers une économie bas carbone.
Mais ce dont on s'est assuré quand même au passage, c'est que les propositions que nous faisons ne sont pas contradictoires avec les réglementations existantes, et en particulier la réglementation de l'OMC. Donc on a vérifié. C'est assez simple de vérifier que ce que nous proposons, donc un système décentralisé de circulation de l'information, n'est pas contradictoire avec les règles de l'OMC qui défendent le fait qu'il n'y a pas de préférence nationale. Donc dans ce que nous proposons, il n'y a pas de préférence nationale. En fait, on propose que les importateurs et les exportateurs indiquent les carbones sur leur facture de la même façon à égalité que les producteurs nationaux. Il n'y a pas de taxe qui soit liée. C'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le fait que dans la proposition telle qu'elle est aujourd'hui, nous ne défendons pas la mise en place d'une taxe. On ne l'empêche pas. On pense que la connaissance améliore l'efficacité de toutes mesures qui seront prises par les différents blocs ou par les différents pays. Mais en l'occurrence, on n'impose pas de taxe. Et donc, nous sommes OMC compatibles dans la proposition que nous faisons.
Alors, comment expérimentez-vous ce processus ou comment comptez-vous expérimenter ce processus ?
C'est la bonne question. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu beaucoup de spécialistes, de grands spécialistes divers et variés qui nous ont dit, écoutez, c'est vrai, rien dans l'innovation, les quatre blocs dont j'ai parlé tout à l'heure, rien n'est nouveau, mais mis ensemble, c'est la première fois que c'est fait. Et donc, ça vole, ça peut tout à fait fonctionner. Mais c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'en effet, pour convaincre, il faut avoir une expérimentation, c'est-à-dire dire que ça marche sur le papier, mais ça peut aussi marcher dans la vraie vie. Et le deuxième élément, c'est que comme tous les grands projets coopératifs, les premiers se disent ben, « pourquoi j'irai en premier ? Je vais attendre que d'autres se donnent du mal ». Et donc le statut de premier, il peut être un peu rebutant.
Mais il peut donner aussi un avantage à ceux qui auront la primeur.
Et c'est exactement ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, l'enjeu, il est d'arriver à... Parce que c'est la réalité. Si on est convaincu que c'est le défi des 30 ans qui viennent, le problème n'est pas d'être un précurseur. Le problème est d'être un retardataire. Et donc le problème que nous avons, nous, maintenant, c'est la première étape du projet, c'est de bâtir ce qu'on appelle pour l'instant un label, à défaut d'autres mots, qui va permettre aux précurseurs de se signaler entre eux pour s'épauler dans cette expérience en vraie grandeur. C'est-à-dire que ces précurseurs, ça va être des entreprises qui vont dire ben oui, mais moi, je m'y lance dans les carbones sur les factures. Ça va être des villes qui vont dire ben oui, moi, je m'y lance dans les carbones sur les factures. Mais des administrations aussi. Mais ça va être aussi tous ceux qui peuvent aider des entreprises ou des villes à mettre les carbones sur les factures. Et on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle éminent des comptables. Quels sont les comptables qui vont être précurseurs, c'est-à-dire capables d'accompagner une entreprise qui veut être précurseur ? Mais il n'y a pas que. Il y a aussi, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, tous ceux qui font des logiciels pour les entreprises. Comment est-ce qu'ils sont précurseurs en leur proposant des logiciels with the carbon on invoices inside, avec carbone sur facture dedans, c'est-à-dire qui est l'enregistrement carbone sur facture, ou si c'est des logiciels comptables qui sachent extraire et reventiler les carbones. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est tous ceux qui vont valoriser les précurseurs. Et on a des discussions très intéressantes avec l'ensemble du monde de la finance, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'une entreprise s'intéresse à un problème ? C'est si ça l'aide à obtenir du crédit. Et les financiers qu'on rencontre disent « Mais écoutez, c'est vrai que cette manière de mesurer est beaucoup plus simple que tout ce qu'on utilise aujourd'hui. » Donc nous, on serait tout à fait prêts à valoriser dans nos processus de prêt, dans nos processus d'attribution d'investissement, les précurseurs de carbone sur facture. Et donc c'est tout un écosystème qu'on cherche à bâtir autour de ce label gratuit. On n'est pas là pour commencer à mettre des coups de tampon avec un prix avec. Autour de ce label de précurseur de carbone sur facture.
Et en fait, ce dont on se rend compte dans les gens que nous sommes allés voir, c'est qu'il existe déjà des tonnes d'initiatives sur le terrain plus ou moins locale, plus ou moins nationale. Je dis plus ou moins nationale parce que, en matière d'initiative, il y a d'ores et déjà une réglementation française qui va imposer pour toutes les grandes entreprises de calculer et de publier leur empreinte carbone. Donc on a déjà quelques gros qui sont obligés de le faire. Et puis il y a des initiatives de terrain, de gens qui, généralement par simple conviction citoyenne, se disent « mais moi, j'aimerais bien mettre en avant, je suis bas carbone, j'aimerais bien pouvoir le mettre en avant, et donc j'aimerais bien que ça se sache, en gros ». Donc, en fait, on pense qu'il y a d'ores et déjà, épars dans la nature, tout un tas de gens qui sont prêts à être précurseurs, qui ne demandent pas mieux que de démarrer tout de suite et de pouvoir affirmer leur avantage concurrentiel.
Et pour ces acteurs, il leur faut un chef d'orchestre, en quelque sorte ?
Il leur faut une coordination, parce que chef d'orchestre, si vous voulez, ça donne... Nous, là-dedans, on essaie de mettre en relation autour de cette idée du label gratuit des gens qui, en fait, vont coopérer directement sans avoir besoin de nous. À la fin des fins, si une entreprise qui est carbone sur facture, précurseur de carbone sur facture, ben, elle va avoir besoin d'un comptable. Et le comptable, il a aussi besoin de clients. Donc tous ces gens-là vont se rencontrer sans nous. Ce dont on a besoin, je crois, pour que le système démarre, et c'est pour ça qu'on a prévu trois étapes. On a une première étape qui est en cours en ce moment, où on est en train de définir le label, et donc on aura un premier événement où on annoncera la tête du label. À quoi ça engage une banque qui dit qu'elle est précurseur carbone sur facture, par exemple. Ensuite, il y a une deuxième étape où on va discuter avec des précurseurs potentiels, c'est-à-dire que ben, les gens, avant de s'engager, ils veulent savoir quel est le label, mais à quoi ça les engage, mais qui d'autre va démarrer. On a envie d'être précurseur, mais on n'a pas envie d'être précurseur tout seul. On veut être certain qu'il y a un mouvement derrière. Donc on aura une deuxième phase où on va construire, de façon confidentielle, d'ailleurs en discutant avec des syndicats professionnels, des entreprises, des grands réseaux comptables, des petits réseaux comptables, des comptables indépendants, s'ils ont la tentation d'être précurseurs. Puis on aura un deuxième événement qui sera l'annonce des premiers précurseurs. Et puis on aura la troisième étape qui sera celle du lancement proprement dit de l'expérience, où ces précurseurs se lanceront et où on essaiera de faire qu'ils soient de plus en plus nombreux. Mais quand je dis « on », c'est pas nous avec nos petits bras, c'est qu'à un moment donné, une entreprise qui va être précurseur, elle va passer par exemple un message immédiat à ses fournisseurs en leur disant bah, « écoutez, moi, progressivement, je vais donner la priorité aux fournisseurs qui sont précurseurs de carbone sur facture. Et je vous mets un lien qui vous explique pourquoi c'est très simple et pratiquement gratuit de devenir précurseur de carbone sur facture. » On voit que si le système est bien conçu, en gros, il est autoportant, c'est-à-dire que chacun devient le représentant de carbone sur facture. Et comme ce qu'on cherche, c'est créer du lien, de la coopération tout au long des chaînes de production et de commercialisation, eh ben, ça se diffuse le long des chaînes de production et de commercialisation.
Mais pour ça, il y a quand même un moyen qui nous ne mettons pas en avant en tant que chef d'orchestre, mais par contre, on a un site, qui est le site Carbone sur Facture, qui sera le réceptacle de toutes ces initiatives. Donc en particulier, par exemple, la liste des précurseurs, un jour, elle sera disponible là-dedans. Donc les gens auront un outil. Bref, ce n'est pas décidé, évidemment. Mais en tout cas, on utilise beaucoup l'informatique comme outil de mise...
De mise en relation des différents acteurs, les uns avec les autres. D'accord. Alors, pour le lancement de ces expérimentations... il faut amorcer la pompe, comme tout sujet innovation. C'est un peu la pyramide de Maslow avec les précurseurs. Il faut trouver les précurseurs qui vont entraîner les autres, en fait, et sans que le train s'arrête au départ. Alors, on a cité en off, si je puis dire, les comptables. Enfin, là, c'était pas en off, vous l'avez clairement expliqué. Les syndicats professionnels, métiers, les éditeurs de logiciels, les cabinets de conseil, les bureaux d'études. Quels sont vos ambassadeurs? Et puis, j'oublierai pas Thierry Breton. Quels sont vos ambassadeurs dans cette démarche? Quels sont vos meilleurs alliés?
Vous voulez dire en tant que catégorie ou en tant que personne? En tant que quoi?
En tant que famille d'influence.
Mais, c'est-à-dire qu'on sent qu'en fait, l'intérêt maximum, aujourd'hui, on le sent notamment chez les comptables. parce que les comptables ont le sentiment qu'il y a une erreur de casting au départ, peut-être. C'est-à-dire on parle de bilan carbone. La France, avec le cabinet Carbone 4, avec l'ADEME, a inventé le bilan carbone qui maintenant se répand dans toutes les boîtes, dans les grandes boîtes dans le monde. Mais on parle de bilan, mais on ne met pas les comptables dedans. Et donc ils se rendent compte qu'en fait, ils vont peut-être avoir la possibilité, ils vont sûrement avoir, si tout ça marche et tout ça va marcher, ils vont peut-être pouvoir dire qu'ils sont en fait le maillon manquant pour arriver à gérer proprement cette histoire de transition en carbone. C'est-à-dire que la comptabilité, qui a un certain nombre de fans, mais enfin c'est un métier qui n'a pas forcément une image ni écologique, de changement, c'est plutôt la stabilité. Et donc là, ce qu'ils voient, c'est la possibilité de faire un changement modeste, puisque finalement, la comptabilité carbone, c'est déjà une comptabilité matière. Donc ils sont exactement dans leurs compétences, et que ça peut être révolutionnaire. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'humanité qui a fonctionné pendant 500 ans en ne comptant que de la monnaie se mettrait à fonctionner sur deux pieds. On compte la monnaie et on compte les carbones, c'est-à-dire l'écosystème.
Alors, les comptables n'ont pas de rôle de premier plan pour ce qui concerne la transformation des entreprises et pour ce qui concerne toutes les questions relatives à l'écologie. Par contre, ils ont un pouvoir d'influence auprès de leurs clients qui est assez important, voire très important. Toutes les entreprises font fréquemment appel à leurs comptables pour leur demander un conseil dans tel ou tel domaine. Parce que le comptable connaît très bien la mécanique de l'entreprise. Donc en fait, ils peuvent être, et visiblement, c'est ce que tu nous dis, ils sont des ambassadeurs, des alliés de premier plan.
Ils seraient le garant de deux choses. D'une part, le mode de calcul dans le passage des carbones amont, donc des carbones qui sont sur les factures d'achat, vers les carbones qui sont sur les factures clients. Et d'autre part, ils sont surtout les garants de l'égalité, qu'il n'y a pas des gens là-dedans qui font du greenwashing. Parce qu'un moyen simple, on voit bien aujourd'hui ce qui se passe au niveau du greenwashing de grandes entreprises, un moyen simple d'être excellent dans le contenu carbone de ses factures, c'est d'en oublier en route. Et de dire, moi j'en avais 10 en entrée, j'en ai 5 en sortie, et les 5 autres, on ne sait pas trop où ils sont passés. Bon, les comptables seront les garants de l'égalité qui est centrale dans tout notre processus. C'est que pour une entreprise lambda, j'entends par entreprise lambda une entreprise qui n'est pas productrice de carbone primaire, il y en a très peu qui le sont, l'équation fondamentale, c'est que tout carbone qui rentre, quelque part, doit sortir. Et donc, le comptable doit vérifier tous les ans que... il y a une égalité entre les carbones qui sont rentrés dans l'entreprise et les carbones qui sont sortis de l'entreprise, modulo évidemment le traitement des stocks, modulo des techniques d'amortissement, enfin des choses que les comptables maîtrisent tout à fait, qui sont le cœur de leur métier.
Ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir, dans ce concept, il ne pourra pas y avoir de manipulation marketing pour s'approprier...
C'est ce qu'on espère.
Je lave plus blanc que le blanc.
C'est verrouillé par l'égalité comptable.
Ouais. Aujourd'hui, dans l'expérience que tu citais en introduction de la SNCF, c'est vrai qu'on a tous, quand on achète un billet... une trace, ils nous disent, ah ben voilà, vous avez économisé, d'ailleurs en général c'est comme ça qu'ils le présentent, tant de grammes par rapport à un voyage en voiture ou un voyage en avion ou je ne sais quoi. Mais en fait, personne ne sait comment est fait ce calcul, quoi. Il n'y a rien qui garantisse que la SNCF a pris en compte telle ou telle chose. Là, dans le système que nous préconisons, en principe, il devrait y avoir un bouclage et nous espérons même entraîner la comptabilité nationale derrière nous, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un bouclage au niveau global de la nation, de l'ensemble de ce qui émanerait des entreprises.
Mais ça va bien au-delà de la nation, puisque vous parliez de l'Europe.
Ah, oui.
Mais les projets dont on parle, par exemple, facture européenne, c'est un projet européen. La CRDS, c'est un projet, les obligations de publier des données ESG, donc des données environnementales, sociales, gouvernance, c'est une obligation qui est en train de se mettre en place européenne. Donc tous ces thèmes dont on vient de parler sont des thèmes européens. Et tout à l'heure, tu parlais de l'Europe en tant que plateforme de gouvernance, disons pas réglementation seulement, mais de gouvernance. Et notre innovation est une innovation de gouvernance. Donc c'est en ça qu'elle est en effet, je pense, c'est assez logique que ça se produise en Europe. Et on a déjà des contacts dans d'autres pays qui montrent que c'est quelque chose qui peut aller plus vite en France, c'est bien ce qu'on espère. Mais notre objectif, c'est bien sûr de démarrer l'expérience dans plus d'un pays.
Quels sont les pays qui sont déjà bien avancés sur ce sujet, en dehors donc de la France, en Europe ?
Ça dépend des volets. Sur la facture électronique, l'Italie, l'Espagne sont plus avancés que la France, qui est beaucoup plus avancée que l'Allemagne. En revanche, dans d'autres domaines de mesures environnementales, par exemple, les Hollandais sont beaucoup plus avancés que tout ce qui est plus au nord, où les gens du nord, finalement, sont plus avancés que les Européens du sud. Donc, à la fin des fins, nous, notre approche, on n'est pas des réglementateurs, on n'est pas des politiques. Nous, on joue sur une logique qui est un peu la logique start-up, c'est-à-dire la logique de dire, dans tous les pays, on trouvera des gens qui ont envie d'être précurseurs. Dans tous les métiers, dans toutes les professions, tu demandais les professions qui sont les plus... À la fin, même prenons quelque chose qui est essentiel, c'est les très grandes entreprises. Très grandes entreprises, par définition, elles sont autonomes. Elles peuvent tout faire, elles ont besoin de personne. Bon. Et pourtant, une grande entreprise qui se lancerait en étant précurseur, qui expliquerait à son armée de fournisseurs qu'ils apprécieraient qu'ils soient précurseurs, qui donnerait à son armée de clients l'information qu'elle a déjà dans ses comptes, qui est sa facture carbone produit par produit, aurait un impact absolument vertigineux. Est-ce qu'il est impossible de trouver, parmi les 40 ou 50 grandes, très, 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 très grandes entreprises françaises, une, deux, trois entreprises qui ont envie d'être précurseurs de carbone sur le facture ? Nous, en tout cas, on y croit. On pense que ce n'est pas impossible. Et donc, si ce n'est pas impossible, c'est possible.
En fait, le deal vis-à-vis des grandes entreprises comme des petites, hein, c'est très simple, c'est que pour être précurseur au départ, bien évidemment, il faut affecter des carbones entrants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand une grande entreprise veut faire son bilan carbone ? Elle fait venir un expert, et puis cet expert, il recherche sur les factures, il fait des recherches pour finalement faire une estimation du coût carbone d'un produit qui est en input de l'entreprise. Dans l'expérimentation, ce qu'on va demander à un précurseur, c'est de s'engager à remplacer l'estimation qu'il a au départ par ce qui lui serait fourni par ce fournisseur lorsque ce fournisseur lui-même devient membre précurseur de carbone sur facture. Le système, globalement, doit coûter beaucoup moins cher que la somme de ce que paye chaque grande entreprise aujourd'hui qui doit faire son empreinte carbone. Le système, il s'auto-alimente. Une fois qu'il est auto-alimenté, je ne dis pas qu'il est gratuit, mais il est beaucoup, beaucoup moins cher que ce que paye par nécessité.
Quand tout le monde l'utilisera, absolument. Il sera complètement dilué dans le processus, dans le coût du produit final, en fait.
Alors, on ne désespère pas, bien évidemment, que le jour où on pourra mettre sur la table des expériences réussies de précurseurs avec tout un écosystème autour, une réglementation le fasse passer à un stade d'utilisation obligatoire. Mais ça, je veux dire, les processus suivront leur cours normal. S'il y a une pression des gens pour dire on voit bien qu'on aimerait bien que tout le monde s'y mette, il y aura une réglementation qui sortira.
Alors, il y a clairement une prise de conscience. Alors justement, sur la prise de conscience d'un public qui est de plus en plus large sur tous les enjeux par rapport à la protection de la planète, notamment pour nos enfants et nos petits-enfants, est-ce que les médias, et là je vais crier mon cri du cœur, François de Closet revient, je n'ai pas l'impression que ce sujet soit développé par les médias aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet d'actualité. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Je pense que c'est presque un peu exagéré, parce que les médias ont fait un bond en avant, je trouve, au cours des dernières années, dans la couverture de la trajectoire carbone, qui est énorme. La difficulté, c'est que le sujet, là, on l'a présenté pour un public averti de podcast économie, mais c'est vrai que quand on parle facture électronique, trajectoire carbone, comptabilité carbone, c'est des sujets qui ne sont pas forcément grand public. Et l'autre élément qui est compliqué dans notre processus, il ne faut pas parler que des choses simples, il y a aussi, c'est le fait que le boulot, si on veut y arriver, il va d'abord être dans les entreprises. Et ce n'est qu'en fin de chaîne que les consommateurs ou les épargnants, pour savoir combien il y a de carbone dans leur épargne ou dans leur compte courant, vont avoir l'information. Et on est en train de parler facilement de 2, 3, 4 ans avant qu'on ait des empreintes propres au niveau final, au niveau du consommateur final. Et c'est sûr qu'on est dans une économie où on est peut-être prêt à attendre 6 ans un métro, 7 ans un stade, mais on n'a pas l'idée qu'il faut du temps pour arriver à avoir une bonne information. Une bonne information, ça prend du temps. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui... Notre sujet, pour l'instant, on n'a pas du tout cherché à contacter les médias. Notre sujet n'est pas un sujet facile pour les médias. En revanche, on pense qu'il y a des choses extrêmement puissantes, mais c'est aussi à nous de le faire valoir, hein. Il y a des choses extrêmement puissantes sur cette idée d'intelligence collective, de travail collaboratif, et de, finalement, de construction collective d'une mesure qui sera peut-être aussi importante pour nos enfants qu'a été la comptabilité inventée il y a 500 ans pour l'argent. La comptabilité inventée il y a 500 ans a complètement changé le monde. Certains diront en bien, d'autres vont dire « Ah oui, mais c'est aussi grâce à ça qu'on a les problèmes carbone ». Mais ils ont complètement, ces bons vieux comptables, ils ont changé la façon dont on a vu le monde. Donc derrière tout ça, et je pense qu'il y a des médias qui pourront s'en emparer, il y a l'idée qu'on est en train de dire qu'on va, si demain on rééquilibre en disant la comptabilité, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi le carbone, c'est une vision du monde qui s'enrichit. Et en fait, c'est peut-être une première page d'une nouvelle civilisation qui est plus en harmonie avec l'environnement écologique.
Et avec la survie des sapiens, d'une certaine
Absolument,
façon.
Absolument, qui nous intéresse.
Est-ce que vous avez une vision du planning de mise en place de l'expérimentation dont vous parliez tout à l'heure ?
Pour l'instant, on dit en gros c'est 2023. C'est-à-dire, je vous ai décrit 3 étapes.
C'est l'année 2023 pour démarrer. Mais par exemple, on sait que la mise en place généralisée de la facture électronique en France, ça serait début 2026. Donc nous, on est prêts à toper immédiatement si par hasard, si on arrive à ce que l'expérience fonctionne en vraie grandeur en 2026. Il faut voir que notre rendez-vous, c'est 2050. Enfin, c'est comme ça qu'on a construit la chose.
Pour le résultat et la baisse significative.
Et la baisse significative des carbones.
Pas pour la mise en place de la facture électronique.
On n'est pas 2 mois près. Mais du coup, ça nous laisse 2-3 ans. Si dans 2-3 ans, même 4, on a une comptabilité carbone généralisée et sur les étiquettes de nos étalages, le contenu en carbone de tous les produits qu'on achète, on applaudit demain.
Enfin, oui, mais si vous arrivez idéalement avant 2026, date de l'obligation de la facture électronique, de pouvoir implémenter.
Ah oui, non, c'est pour ça que Jérôme dedans, parle de 2023. Espère bien faire démarrer l'expérimentation dès l'année prochaine.
En gros, rien n'est. La grosse difficulté, mais en même temps la vertu d'une expérimentation, c'est de se dire on ne doit pas avoir de préalable. Si on commence à dire qu'il faut la facture électronique, on est mal barré. Si on dit qu'il faut que tous les comptables soient d'accord, on est mal barré. Donc la question, c'est comme ça, en tout cas, qu'on est en train de construire notre projet. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut démarrer sans avoir rien à demander à changer à la réglementation, rien à changer à la technologie, rien à changer, avec ceux qui ont envie d'y aller. Et pour l'instant, alors on est en train de parler d'un projet qui est en train de se construire, hein, mais pour l'instant, nous ne voyons aucun obstacle à ce que un certain nombre de précurseurs puissent démarrer et que ça ait un sens. Après, ben voilà, on aura peut-être des mauvaises surprises, des bonnes surprises. Voilà, c'est tous les projets.
C'est propre de l'expérimentation.
Mais ce qu'on observe même, c'est qu'un certain nombre de gens qui, eux, ont d'autres projets que nous, des projets qui sont généralement plus clivants que celui-là, considèrent comme acquis qu'on aura l'information. Alors qu'en fait, du coup, ils s'interrogent relativement peu sur la façon d'obtenir cette information. Et ils pensent que ça va exister. Alors oui, certes, ça existe aujourd'hui sous la pression des experts, enfin en utilisant des experts, mais d'une façon assez coûteuse et pas du tout généralisée.
Et alors je retournerai à la question, c'est-à-dire dans nos conversations, il y a toujours mais comment vous allez vaincre ce problème, et comment vous, etc. Et donc nous, on a envie de retourner, évidemment. La question est de dire, ben voilà, prenons un exemple concret, l'Institut de l'économie. Est-ce que l'Institut de l'économie peut être précurseur de carbone sur facture ? Alors, j'y ai pas réfléchi, toi non plus, mais la question, elle est là. Elle est de se dire, à un moment donné, comment est-ce qu'on obtient un basculement pour dire, non pas comment vous allez y arriver, mais comment on va y arriver. Et en fait, cette notion de précurseur, elle est à la fois très vague, mais elle peut prendre des éléments très précis. Parce que finalement, là, de manière beaucoup plus sophistiquée, c'est pas un média comme les autres, mais l'Institut de l'économie, c'est un peu un média.
C'est un acteur.
C'est un acteur, bien sûr, ça c'est clair, mais c'est plutôt un acteur du champ à la fois de la connaissance, mais aussi pour pousser cette connaissance, pour la faire savoir, donc de l'information, donc un média. Et donc, en quoi, et donc c'est un élément de réflexion voilà, pour dire qu'est-ce qui ferait que l'Institut de l'économie pourrait dire « je suis précurseur ». Et donc là, on en est à ce stade-là, on est en train de se dire comment est-ce qu'on discute avec pas mal de think tanks, et donc c'est un think tank hein, aussi, l'Institut de l'économie, on discute avec des think tanks autour, non pas de leur dire « t'es dedans », parce que ça veut pas dire grand-chose, « oui, dedans », ben oui, c'est sympa, votre truc, mais ça veut dire quoi être dedans ? Pour dire, mais voilà, un média qui serait, ou un think tank qui serait précurseur, ben, il ferait ceci, ceci, cela. Par exemple, ben, il investirait des neurones dans la compréhension du process, parce que c'est pas trivial, là, on en a parlé une heure, mais bon, on n'a pas tout dit. Il y a sûrement d'autres questions pertinentes ou impertinentes à poser. Donc, investir intellectuellement là-dedans pour dire oui, sur le papier, je tamponne, moi aussi, ça, ou au contraire, je dis attention, vous avez complètement oublié tel élément. Et puis, deuxième élément, dans mon travail de vulgarisation, c'est un peu de la vulgarisation que fait un think tank, ou dans mon travail de conseil de hautes autorités, j'intègre cet élément-là. Et quand on me parle trajectoire, je réponds pas de manière pavlovienne, mais je réponds à « est-ce que vous avez regardé l'approche carbone sur facture ?»
Alors j'espère que le groupe Les Échos sera intéressé pour être un des acteurs carbone sur facture.
On est d'ores et déjà en train de réfléchir à faire passer des éditoriaux ou des articles aux journaux. Et donc Les Échos sont dans notre cible, bien évidemment.
Mais à nouveau, c'est en gros, ce qu'on voudrait, c'est pas aborder un journaliste en le suppliant de passer un numéro, c'est de dire investir dans la compréhension du processus pour, en gros, nous accompagner, nous, mais pas notre petit collectif, tous ceux qui seront alors dans la barque quand on annonce le label, et surtout quand on annonce les premiers précurseurs. C'est là qu'on aura un besoin crucial des médias.
Eh bien, écoutez, Jérôme et Jean-Marc, je vous donne rendez-vous en 2023 pour que nous reparlions de la première ou des premières expérimentations que vous ferez.
Ça sera une excellente idée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour que nos réflexions alimentent la matière grise d'un large public, merci de partager cet épisode sur LinkedIn ou Twitter avec le hashtag économie dans votre commentaire. Salut !